Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Le voyage à l'étranger, qu'il soit touristique ou professionnel, est devenu un acte banal. Désormais, il faudra pourtant en considérer sérieusement les contextes politiques, sécuritaires, médicaux ou encore climatiques. Les Brésiliens n'ont pas voulu se défaire de leurs armes. Le référendum qui voulait bannir le commerce des armes à feu s'est transformé en plébiscite contre la politique de sécurité et contre le gouvernement, empêtré depuis des mois dans des scandales de corruption. Le régime syrien serait-il en mauvaise posture? Accusé directement dans le rapport de l'ONU sur l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, il en faudra certainement plus pour l'ébranler. L'homme du 21e siècle est un être en mouvement. Il se moque des frontières et des décalages horaires, mais cette facilité à raccourcir les distances et à élargir les horizons n'est pas sans danger. S'exportant aux quatre coins du monde, l'individu banalise le voyage et s'immisce dans un univers dont il ignore la plupart du temps les règles élémentaires. Trop souvent, les contextes politiques, sécuritaires, médicaux ou encore climatiques ne font l'objet que de prises en compte très relatives. Et cette omission est regrettable dans notre environnement contemporain. Il suffit pour cela de penser aux prises d'otages dans des pays en guerre, aux tsunamis en Asie du Sud, aux cyclones en Amérique, à la grippe aviaire, dernière frayeur en date, après celle des accidents d'avion en chaîne l'été dernier. L'être en mouvement devra donc de plus en plus s'informer, prendre ses précautions, même si voyager rimera toujours avec risque, incertitude et danger. Olivier Guillard de Crisis Consulting en est bien conscient.
De mémoire, en 2004, à peu près, il y a un individu sur trois de la planète qui a voyagé. Donc, avec des modes de transport et pour des finalités différentes, on a eu donc quelque chose comme 1,8 milliard d'êtres humains qui ont, pour des besoins personnels, professionnels ou autres, eu à se déplacer sur des distances relativement longues, et notamment par les transports aériens. Donc ça, c'est une première chose. On va prendre en compte un deuxième élément qui a un petit peu façonné cette thématique. Nous avons eu en 2004 donc quelque chose comme 760 millions de touristes, donc passant d'un lieu de domicile vers un endroit de villégiature plus propre au loisir ou à la détente. Donc tout cela génère des flux considérables de déplacements, des déplacements qui sont voulus ou subis selon certains moments, mais donc une proportion importante de la population de notre planète, quel que soit l'hémisphère ou le continent retenu, se déplace et est obligé de voyager. Des flux importants qui ont à subir des aléas qui peuvent être des aléas politiques avec des situations d'instabilité politique ou gouvernementale relative et d'autres considérants d'ordre sanitaire, une épidémie comme celle que nous redoutons un petit peu actuellement de grippe aviaire, ou d'autres éléments de type catastrophe climatique, un petit peu selon le modèle des ouragans ou des typhons qui se profilent sur la côte est américaine aujourd'hui, ou d'ordre de ceux qui ont secoué la région du Cachemire il y a une quinzaine de jours. Donc tout cela impacte nécessairement la sécurité ou le confort du voyageur, de la personne qui est amenée à se déplacer, donc faisant naître autour de cet individu une notion de risque que l'on a pu identifier sous le vocable un petit peu parlant de risque voyage, en effet.
Alors, je suppose que voyager n'a jamais été, au fait, un acte banal. La seule chose, c'est qu'il était peut-être devenu, vu que le voyage est devenu plus démocratique, je dirais. Est-ce qu'il faudra désormais perdre, en quelque sorte, cette insouciance du voyage?
Ça serait, à mon sens, donc une précaution minimale à avoir. C'est à tout le moins le bon sens qui dicterait ces questions-là. Je crains, en revanche, pour l'observer dans un monde professionnel ou dans un monde plus privé, plus proche de la notion de loisir, que ce n'est pas nécessairement le cas ou la préoccupation primaire, je vais dire, de tous nos contemporains. Nous avons des individus qui sont pris dans un contexte parfois de relative fébrilité, d'instabilité, et pourtant qui refusent à prendre en compte l'ensemble des éléments de la destination vers laquelle ils se dirigent, ce qui fait naître par nécessité des comportements, des situations à risque qu'un minimum de bon sens et de précaution avant de partir donc aurait certainement écarté.
Et c'est-à-dire que le voyageur doit être éduqué, le voyageur lambda, je dirais.
Le voyageur lambda pourrait déjà s'éduquer tout seul en prenant en compte, en se posant quelques questions, à savoir est-ce le bon moment d'aller faire un déplacement, une visite en Asie du Sud alors que je suis entre peut-être une période de mousson et de dépression tropicale, ou est-ce le bon moment pour aller, je ne sais pas, visiter le tel musée alors que le pays ou la capitale dans laquelle il compte se rendre, une période d'instabilité sociale, de grève. C'est aussi peut-être à l'individu de se poser la question de savoir si le fait de pouvoir réserver à tout moment, à partir de chez lui, via son ordinateur et Internet, une destination à un prix relativement modique par rapport à ce qui pouvait être le prix d'une même prestation il y a quelques années, il est évident que le voyageur, donc que le touriste ou que le voyageur d'affaires, le voyageur professionnel, doit nécessairement, il semble à beaucoup de monde du reste ces temps-ci, se poser un petit peu plus de questions. S'il n'est pas apte, et c'est bien possible également, à se poser lui-même et tout seul donc ce type de questions, il peut être du ressort des autorités, de son employeur, de cadres corporatistes ou autres, de l'éveiller un petit peu à cette prise de conscience et de lui dicter, de lui donner quelques repères, quelques bornes, et éventuellement donc de l'éduquer par le biais de formation, de briefing ou de prise en main à cette prise de conscience.
Alors l'on sait qu'au-delà des pics de crainte, en quelque sorte, comme toujours au bout d'un certain temps, on tente à oublier. Comment garder cette vigilance en éveil ?
Votre référence est parfaitement bonne. Je relisais il y a quelques minutes quelques éléments donc de tendance sur les 7 premiers mois de l'année 2005, sur les grandes tendances des voyages depuis le mois de janvier, et on a vu en définitive que quantité d'éléments que nous aurions pu penser dissuadant le voyageur ou l'homme de se déplacer dans d'autres régions, soit de son continent ou ailleurs, en fait ont été largement marginalisés. Les flux migratoires, principalement touristiques, se sont détournés soit d'une région, prenons par exemple le pourtour de quantité de nations de l'océan Indien suite au séisme sous-marin et au tsunami donc, qui a eu lieu en décembre 2004, d'autres motifs plus liés à l'environnement épidémique ou sanitaire, d'autres événements plus liés à des crises politiques ou militaires dans d'autres régions du monde, plus le renchérissement du prix du pétrole, donc par conséquent du prix du billet de transport par avion. On aurait pu penser que cet ensemble de facteurs aurait amené le voyageur à contracter peut-être un petit peu son désir ou son besoin d'aller s'évader ou de découvrir. Ben, pas du tout le cas. On s'aperçoit encore aujourd'hui qu'après 7 mois, donc c'est les 7 premiers mois d'observation, 8 premiers mois d'observation de 2005, eh bien, les déplacements à vocation touristique ou professionnelle font encore l'objet d'une croissance importante, donc c'est de l'ordre d'à peu près de 6%. Nous avons, par rapport à l'an passé, déjà 25 millions de touristes en plus qui parcourent le monde en dépit des quelques contraintes ou quelques sujets d'interrogation qu'il pourrait y avoir d'un point de vue épidémique, de catastrophes naturelles, politiques ou autres. Donc c'est une tendance qui me surprend, ainsi que beaucoup d'autres observateurs, d'une manière considérable à chaque fois encore.
La raison n'est-elle pas à trouver du côté du fait que le voyage est devenu en quelque sorte un bien de consommation et que donc il faut le consommer à tout prix et face à tous les risques ?
Plus de temps, plus de moyens, également plus de sollicitations. L'homme est quasiment sollicité en permanence via le biais de publicité, via le biais de phénomènes de mimétisme par rapport à ce que donc certaines de ses connaissances pourraient faire. Donc l'homme étant de plus en plus sollicité, ayant de plus en plus de moyens, de plus en plus de facilités pour choisir, être conseillé, partir, donc il est à peu près normal qu'on soit sur des tendances d'expansion, alors même que le cadre, j'allais dire, général de la notion de risque au voyage serait pourtant beaucoup plus fébrile qu'il y a encore peu.
Alors, le contexte donc politique des pays que l'on veut visiter, le contexte sécuritaire, médical ou climatique, il est une autre question, à savoir la question des droits de l'homme. Cette question-là, est-ce qu'elle est prise en considération et dans quelle mesure? Est-ce qu'elle est parfois dissuasive et pour quelle majorité ou quel pourcentage de potentiels voyageurs?
Alors idéalement, lorsque nous avons réfléchi autour de ce concept de risque voyage, nous avons essayé d'élargir le concept, de l'extraire des simples carcans de la sécurité ou sécurité au sens, j'allais dire, policier ou militaire du terme, pour le prendre en compte des problématiques adjacentes, dont celle des droits de l'homme, vous l'évoquiez. Et elle est à mes yeux, à tout le moins, très importante. Je doute malgré tout, il y a encore certainement un peu de pédagogie de communication à faire sur le sujet, ne sera pas trop, mais il est difficile aujourd'hui pour des personnes, bon, il y a divers types de voyages, naturellement divers types de déplacements, mais je pense que pour l'instant, sauf à prendre les exemples les plus grossiers de violation des droits de l'homme dans certains pays où la notion est quasiment inexistante, de même que c'est l'état de droit, mais la plupart du temps, on s'aperçoit que si la notion de sécurité au sens large est relativement acceptable pour l'individu, pour le candidat au déplacement, celle de droit de l'homme intervient relativement loin dans l'agenda des priorités du déplacement.
Et vous pourrez éventuellement approfondir cette réflexion avec Olivier Guillard dans son livre « Le risque voyage » publié chez L'Harmattan. Le Brésil a donc dit non à la prohibition du commerce des armes à feu lors d'un référendum dimanche dernier, qui s'est révélé en fait un exutoire au mécontentement des Brésiliens face au gouvernement Lula. Un mois avant le référendum, le oui recueillait encore 76% des voix, porté en cela par une initiative du gouvernement de remise volontaire des armes possédées par les civils, qui aura permis depuis 2004 d'en récolter un demi-million. Avec pour résultat une baisse de 8% des morts par arme à feu par rapport à 2003, alors que le Brésil détient en la matière un record. Mais ces dernières semaines, le tapage médiatique des partisans aussi divers que variés du non à la prohibition des armes a inversé la tendance et 64% des votants se sont finalement rangés à leur raison. Mais ils ne pourront mettre pourtant sous le boisseau les millions de Brésiliens qui veulent en finir avec la violence par les armes. Responsable de Viva Rio, une ONG en pointe de la campagne pour la fin des armes à feu, Ruben César Fernandez reste confiant malgré la défaite.
Le contexte du référendum était très particulier parce que on venait d'une période de crise politique nationale autour de l'affaire de la corruption à niveau fédéral. Et ça a occupé toute l'attention de l'opinion publique et des médias depuis les mois de juillet jusqu'à septembre. Alors tout d'un coup, on a eu le débat du référendum. Ça a été 20 jours seulement. Ça a été d'une vitesse incroyable. Ça a mobilisé l'opinion du pays d'une façon remarquable. C'était impressionnant. Tous les gens y discutaient à la maison, au travail. C'était vraiment une mobilisation intensive. Et là, il y a eu les mots non. Les non, c'était les non à la prohibition, n'est-ce pas? Alors, la campagne du non, qui est partie d'un groupe d'extrême droite, a fait une campagne, disons, très large, mobilisant les sentiments négatifs d'une façon très large. Alors l'extrême droite a voté non, évidemment, mais aussi l'extrême gauche a voté non. Les libéraux ont voté non. Les riches ont voté non. Et aussi les très pauvres ont voté non. Chacun avec ses besoins et ses sentiments, n'est-ce pas?
Quelles leçons tirez-vous dès lors de ce référendum?
Ce que je garde de quand même positif de tout ça, c'est que même en face de la violence, de l'inégalité, de la faillite de plusieurs niveaux de l'institution publique, même en face de tout ça, on a eu comme 36% de la population qui a dit oui. Alors ça revient à comme 33 millions de personnes au Brésil, des Brésiliens, 33 millions de Brésiliens, et même en face de tout ça, on dit, nous, on préfère le désarmement. Nous, on préfère se désarmer. Alors, c'est les votes, oui, à la fin, était un vote, disons, très homogène, du point de vue des valeurs et des attitudes. Tandis que les votes non est très hétérogène, une coalition qui difficilement sera capable de se maintenir en tant que tel, parce qu'il y avait là-dedans toutes sortes d'intérêts, de valeurs et de groupes. Alors, on sort de ce référendum avec, disons, plus d'un tiers de la population adulte du pays qui dit, malgré tout, on dit oui au futur, on dit oui à une vision, disons, civilisée, humanitaire pour combattre la violence. Et ça devra être une force importante dans le futur. Tandis que le non est un vote qui doit se fragmenter. Alors, malgré la faillite, on croit qu'on sort avec une force pour la paix, pour le désarmement, qui doit être considéré comme une force importante dans le pays.
On l'aura compris, il faudra donc tenir compte lors des prochaines élections dans un an de ce tiers de la population qui refuse les armes, veut la paix sociale. Mais au niveau politique, ce référendum a révélé par ailleurs l'émergence de la droite.
On ne sait pas comment ça va se développer. Je crois que la droite, sûrement, a ouvert un espace de présence et des manifestations qu'elle n'avait pas depuis les années de la dictature au Brésil. C'était toujours centre, centre-gauche. C'était plutôt des libéraux à la gauche qui dominaient la scène publique, politique. Après le référendum, il y a un espace pour la droite. Mais je ne crois pas que la droite a cet cette majorité que les noms ont montré, au contraire, pour les mois prochains et l'année suivante, 2006, on va avoir des élections générales au Brésil. Je crois que le sujet sécurité publique sera un sujet central dans les débats suivants. Je crois qu'il y a deux sujets centraux, c'est la corruption politique et la sécurité publique. Alors, ces deux sujets-là doivent avoir une place importante dans les débats de l'année suivante. Et dans ces débats, nous qui on dit oui, je crois que nous aurons une position de force, parce que quand même, malgré tout, il y a là comme 33 millions des électeurs, 36% qui ont dit oui malgré tout.
On retiendra aussi de ce référendum l'engagement de l'Église catholique brésilienne pour l'abolition du commerce des armes à feu, je suppose.
Il faut dire que l'Église catholique a été engagée d'une façon remarquable, pas seulement la Conférence nationale des évêques, mais aussi à niveau des paroisses. On a vu ça grandir comme depuis longtemps, on ne voyait pas l'Église catholique au Brésil un tel engagement dans un sujet d'intérêt général, public, social. Elle a gagné une force, un élan important dans cette participation. Je crois que là aussi, il y a un réseau qui a été formé, des gens qui malgré tout disent oui, il faut faire la paix, il faut aussi apaiser les relations sociales, il faut faire face à la violence, pas avec la violence, mais avec la non-violence. Alors le mouvement de la non-violence aujourd'hui au Brésil peut dire que nous avons une force cohérente, une base sociale importante, d'une largeur impressionnante. Dans certains États importants, et ça revient à 40-45%. Il y a d'autres où c'est beaucoup moins, 10%, 15%, 20%. Mais à niveau national, sûrement, le mouvement pour la paix, pour le désarmement, a perdu, mais on peut perdre de plusieurs manières. On peut perdre et s'y perdre dans la défaite, mais moi je crois sérieusement qu'on a perdu gagnant. On a des perdeurs gagnants. On n'a pas perdu la raison, on n'a pas perdu l'espoir, on a été choqué par la défaite, mais les prochains pas peuvent compter avec une force importante au Brésil pour la paix. Et l'Église est là-dedans, je crois.
Alors une dernière question peut-être, quelles sont vos priorités pour le futur?
C'est le sujet de la sécurité publique. C'est le sujet de l'apaisement des relations sociales au niveau des bases. C'est ce sujet-là qui doit occuper nos attentions. Alors la question des armes sûrement va continuer, mais je crois que les prochains pas élargissent le sujet. Et c'est le sujet de la violence qui est beaucoup plus complexe, n'est-ce pas, qui a des dimensions sociaux importantes. Et il faut, à la fin, travailler bien avec la police, n'est-ce pas, les moderniser, humaniser. C'est difficile, c'est un grand défi, mais on parle toujours des grands défis, n'est-ce pas, quand on parle de la paix. Et pour moi, les sujets de la police, de la justice, sont des sujets importants pour l'année prochaine.
La Syrie est bel et bien dans le collimateur des Nations Unies et des États-Unis. La commission d'enquête de l'ONU met en cause directement le régime syrien dans la conspiration qui a assassiné l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Damas doit désormais rendre des comptes et a opté pour l'heure pour un profil bas. Mais pour Stéphane Walter de l'Institut de langue et civilisation orientale du Havre, il en faudra plus pour inquiéter un régime qui maîtrise depuis longtemps l'art d'essuyer les tempêtes, surtout lorsqu'elles viennent de l'étranger.
Il y a une espèce de malveillance américaine à l'égard de la Syrie, qui est indéniable. Ce fameux rapport me paraît quand même un peu biaisé, même si le régime syrien n'est pas toujours recommandable, loin de là. Je ne pense pas que ça ait été commandité, vous voyez. Enfin, j'ai du mal à l'imaginer, parce que la Syrie, finalement, y a perdu. Donc, à mon avis, il doit y avoir un dérapage des services de sécurité syriens, avec des intérêts mafieux derrière, mais c'est difficile de répondre. Enfin, quoi qu'il en soit, C'était un prétexte, évidemment, pour demander aux Syriens de se retirer du Liban, bon, ce qu'ils auraient dû faire d'ailleurs depuis longtemps, mais tout ça quand même me semble instrumentalisé et récupéré.
Justement, alors vous venez de dire que la Syrie n'a retiré aucun avantage de cette affaire, oui, et tout à fait. Est-ce que cette affaire, justement, et avec cette obsession, cette obstination justement américaine à mettre la Syrie en difficulté, est-ce que finalement le pouvoir en place va résister à une énième crise? Je crois que c'est un problème que vous avez bien étudié.
Je pense que le régime va survivre, mais c'est vrai qu'en dehors de la crise elle-même, bon, finalement, qui est mineure, hein, parce que quand on voit les crises qui ont surmonté le pays, ce ne sera pas la plus importante, mais je crois que le problème essentiel, c'est que c'est aussi au niveau de la direction disons politique et économique aussi du pays, on ne voit pas très bien où les Syriens vont. On a l'impression que c'est une impasse, et à chaque fois que j'y vais, je sens qu'il y a des évolutions, mais un peu par à coup, et il n'y a pas de stratégie vraiment d'investissement, enfin de développement économique, etc. On a l'impression que bon, tout ça est à court terme. Effectivement, que le régime n'a peut-être pas confiance en lui. Et personne n'est capable, pas le président non plus, qui est évidemment regrettable, de changer d'orientation. Alors, parce que la confrontation avec les États-Unis ou le refus de la mondialisation, enfin des choses comme ça, paraît évidemment inconcevable. Mais ils n'ont pas d'alternative à proposer. C'est ça qui est. Il y a une certaine privatisation. Certains s'enrichissent. D'autres non, évidemment, mais il n'y a pas de démocratisation. Grosso modo, les choses ont l'air assez floues. On a l'impression que c'est un bateau sans capitaine, un petit peu. Et c'est la question que tout le monde se pose, d'ailleurs. Est-ce que le président, qui a l'air sympathique, ouvert, etc., souhaite vraiment des améliorations? Ou est-ce que ce n'est qu'un masque? Ou alors, est-il prisonnier des anciens services de sécurité de son père?
Vous avez étudié donc la légitimation du pouvoir syrien. Une légitimation, je crois que vous avez écrit, par le recours au discours historique. Alors, en quelques mots, que cela veut-il dire?
Les Syriens, aujourd'hui, sont les héritiers de civilisations anciennes, sémitiques, hein, qui se sont succédées. L'arabe étant la dernière, enfin, bon, évidemment, maintenant, il y a l'occidentalisation, c'est encore autre chose, mais les gens ont conscience de cette ancienneté, et le régime a toujours, à mon avis, cherché plus ou moins à mettre en valeur cet héritage historique anté-islamique et ensuite islamique, donc par des découvertes archéologiques valorisées, par des musées, etc., par l'éducation. Bon, bref, le résultat de tout ça, je crois, c'est que les Syriens ont quand même une conscience d'appartenir un peuple ancien, enfin, qui a une histoire fabuleuse. À mon avis, ils n'ont pas de leçons à recevoir des autres. Enfin, même si leur régime politique est tout à fait défectueux et critiquable pour certaines choses, pour beaucoup même, si vous voulez, ils ont quand même le sentiment d'avoir une culture qui leur permet de regarder avec condescendance parfois les États-Unis. Et donc de ne pas accepter tous ces diktats qu'on leur impose de l'étranger. Alors je pense que dans ce sens, si vous voulez, autant au niveau interne, les gens peuvent critiquer le régime en disant que bon, il y a une inflation, il y a des choses comme ça. Autant au niveau externe, je pense que la grande majorité des Syriens, je dirais pas tous, mais vraiment beaucoup, se rangent derrière le régime, ce qui est étonnant. J'avais remarqué ça en y allant la dernière fois en avril, des gens qui font partie du mouvement de défense des droits de l'homme, qui sont critiques vis-à-vis du régime, parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, demandent au régime d'un certain côté d'être plus nationaliste qu'il ne l'est dans sa lutte contre les États-Unis, l'influence occidentale, le sionisme et des choses comme ça. Donc je pense que, enfin, toutes ces raisons sont un peu mélangées, hein, parfois contradictoires, mais je pense qu'il y a un soutien, en tout cas, il y a une conscience nationale, il y a un soutien au régime sur certaines questions extérieures, hein, je dis pas intérieures, mais extérieures. En ce sens, c'est pas une crise vraiment qui va ébranler le régime, hein, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas ça.
En d'autres mots, donc, vous dites que la légitimation du pouvoir en place, et qui a recours donc à l'histoire, en quelque sorte, est suffisante pour garantir la cohésion sociale.
C'est un des facteurs qui fait que les Syriens ont le sentiment d'appartenir à une nation, bon, même si par ailleurs ils partagent des choses communes avec d'autres Arabes, hein, parce que les citoyens arabes peuvent entrer en Syrie sans visa, par exemple, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui est français. Donc oui, il y a une espèce de solidarité inter-arabe qui existe, qui est marquée. C'est parfois plus le discours que la réalité, mais enfin quand même elle existe. Eh bien, je crois donc que l'histoire, enfin, vue, présentée et inculquée par le régime, évidemment, à façonner une certaine identité chez les jeunes, qui fait que les gens ont conscience quand même d'appartenir à un ensemble. Et ce genre de choses va dans le sens d'un dépassement des anciens clivages communautaires, qui sont pas entièrement dépassés, mais qui sont peut-être moins forts qu'ils ne l'étaient avant. L'histoire ancienne, sert à souder un peu les gens et leur faire oublier des questions quotidiennes, de cherté de la vie et autres. Donc le régime, à mon avis, joue un peu là-dessus.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.